Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 3. À peine M. Marès se trouva-t-il dans l'antichambre qu'il se produisit dans sa personne un changement subit. Ce n'était plus l'humble employé de tout à l'heure, courbant le front sous les reproches du magistrat courroucé. Il retrouva l'air d'autorité qu'il savait prendre lorsqu'il était en présence de ses subalternes. Il venait d'être violemment molesté dans son amour-propre et il éprouvait le besoin de prendre une revanche. Il prit l'air rogue des mauvais jours et marcha les poings fermés derrière le dos, ainsi qu'il voyait faire au lieutenant de police lorsque celui-ci était de mauvaise humeur. Et se dirigeant vers le bureau où l'attendaient les agents, il repassait mentalement tous les reproches que le magistrat venait de lui adresser pour y trouver le thème d'une virulente sortie contre ces hommes. Aussi, en le voyant passer le seuil, les agents comprirent-ils tout de suite qu'ils subiraient le contre-coup de la scène qui avait dû avoir lieu, pensaient-ils, dans le cabinet de M. de Lignières. Ils se levèrent tous en même temps et attendirent silencieux que leur chef leur adressât la parole. M. Marès entra avec une lenteur calculée et se mit à marcher, les yeux fixés sur le parquet, comme s'il eût combiné quelques plans extrêmement compliqués. De temps à autre, il levait la tête et fixait son regard aigu sur l'un de ses hommes. Le subalterne n'ignorait pas que son emploi dépendait uniquement du bon plaisir de M. Marès. Et il se gardait bien de donner en quoi que ce soit prise à la colère du chef. La bombe allait du reste éclater. M. Marès, se plaçant en face de ses agents, commença d'une voix forte. « Je suis fort mécontent du service. Il me faudra renouveler un personnel qui n'est plus à la hauteur de sa tâche. » Les yeux de Marès, roulant dans leur orbite, avaient incontestablement l'intention de lancer des éclairs. Les agents, qui connaissaient de longue date leur chef, ne doutaient pas qu'il allait se produire un revirement dans cette physionomie courroucée. Et de fait, l'employé s'écria sans transition. « Si j'exécutais à la lettre la volonté de Monseigneur, vous auriez déjà tous franchi le seuil de l'hôtel pour ne jamais y reparaître. Mais je prends sur moi de modifier les intentions rigoureuses de Monseigneur. Vous avez 48 heures pour retrouver le prisonnier qui a réussi à s'évader de la Bastille. Vous entendez? 48 heures. Pas une de plus. » Les agents s'entre-regardaient, mais pas un ne prenait la parole pour protester. M. Marès poursuivit toujours sur le même ton emporté. Vous avez donc une occasion unique de vous réhabiliter à mes yeux. Ce délai passé, je vous remplacerai. C'est dit ? Il avait, en parlant ainsi, parodié un des gestes de grand seigneur du lieutenant de police. Au bout d'un instant de silence, pendant lequel les policiers s'étaient dirigés vers la porte, il les retint par ces mots. « Je veux encore vous sauver de la misère qui vous attend, si je vous renvoyais. J'ai conçu un vaste plan. » Les agents eurent un geste de satisfaction. « Pour le mettre à exécution, j'ai besoin de votre concours à tous. » Mais avant de vous mettre en campagne, je tiens à vous interroger sur les dernières recherches que vous avez faites dans la ville. » S'adressant à l'un des assistants, « Vous, le Dru, quel quartier ?»«
J'ai fouillé le temple. » »«
Et naturellement, vous avez fait chou blanc. » »«
Pas l'ombre d'un gentilhomme qui eut la mine de celui... maladroit. » »«
Vous figurez-vous, par exemple, que le prisonnier aura conservé sa mise d'habitude et sa figure de tous les jours ?»
Mais quand on est adroit, monsieur le Dru, on se déguise et on se fait une tête.
Puis avec un geste de pitié.
Et vous, Truffem? Pas davantage, sans doute. Ni vous, Chantepaul. Ni personne ici, corne du diable. C'est à désespérer des gens de police.
Enfin. Puis s'apercevant qu'un de ces hommes manquait à la séance.
Où est Nicomède?
Demanda-t-il. Un des agents répondit aussitôt.
Il s'était chargé des quartiers Saint-Martin et des Innocents.
Est-ce là qu'il fallait chercher, en plein cœur de Paris, quand on ne pourrait pas faire 100 pas sans être reconnu?
Monsieur Marès avait produit son effet. Il s'agissait maintenant pour lui de faire connaître à ses subordonnés la vaste combinaison qu'il tenait en réserve.
« J'ai un plan, » fit-il en se croisant les bras, ainsi qu'il l'avait vu faire au comte de Lignières. « Je veux que l'on visite du même coup tous les quartiers de la ville. »
Les agents se regardèrent comme pour se compter.
« Mieux que cela, » poursuivit-il, « je veux que dans chaque quartier, toutes les hôtelleries,
toutes les auberges et tous les cabarets soient fouillés du haut en bas simultanément.
« Pour cela, hasarda le dru, il faudrait une armée. »«
Je l'aurai. Les troupes de Sa Majesté sont mises à mes ordres. Je les commanderai, et si le fugitif se cache dans Paris, il sera pincé. »
« Oui, marmotta Truffem, s'il est dans la ville, mais m'est avis qu'il n'y est pas resté. »«
C'est ce que nous verrons. En attendant, chacun de vous suivra exactement les ordres que je vais vous donner par écrit. »
Et, à l'imitation du lieutenant de police, M. Marest alla se placer devant le pupitre en bois noirci qui lui servait de secrétaire. Il ouvrit un tiroir, y prit un cahier de papier qu'il partagea en petits feuillets, et se mit à écrire avec toute l'importance d'un ministre qui libellerait des dépêches aux ambassadeurs du roi. Les agents s'étaient assis sur les bancs qui garnissaient la pièce et gardaient, sinon un respectueux, du moins un profond silence. Tout à coup, la porte s'ouvrit et Nicodème fit irruption. D'un regard chargé de colère, M. Marest le cloua sur place. L'agent avait préparé incontestablement un effet, car sur son visage se manifesta une nuance de désappointement. Les autres policiers lui faisaient signe que le chef était de mauvaise humeur. Nicomède battit en retraite et s'assit sur un des bancs. Lorsque M. Marest eut achevé d'écrire, il se leva pour procéder à la distribution. Chacun reçut le petit feuillet qui lui était destiné et qui devait le renseigner sur ce qu'il aurait à faire. Arrivé devant Nicomède, le policier regarda son subalterne dans les yeux en disant «
Pourquoi n'étiez-vous pas ici en même temps que tout le monde ? D'où venez-vous ? Pour continuer la besogne que vous faites depuis quelque temps, ce n'était pas la peine de vous attarder. Aux innocents !»«
Mais si !» interrompit l'agent, dont le visage s'éclaira visiblement.
« Ah vraiment ? N'allez-vous pas nous dire que vous avez découvert l'Amérique dans la rue Saint-Martin ? » ?»«
J'ai découvert tout de même quelque chose. » »«
Parbleu, que la fontaine est toujours à la même place, et que Saint-Nicolas-des-Champs bourdonne matin et soir. »
Nicomède était évidemment sûr d'avoir bien employé son temps, car il accueillit avec un sourire les paroles à intention ironique de son chef.
« Eh bien, continua M. Marest, puisque vous êtes si satisfait de vous-même, je vous engage à lire attentivement ce qu'il y a d'écrit sur ce papier et à exécuter à la lettre les ordres qui y sont formulés. Vous apprendrez en outre, par vos collègues ici présents, quelles sont les conditions que je mets à votre maintien dans mon service. Peut-être alors serez-vous moins jovial, monsieur Nicomède. »
Pendant que l'employé avait parlé, l'agent s'était, d'un coup d'œil, jeté sur le feuillet, mis au courant des ordres qu'on lui donnait.
« Comment ? » fit-il sans se préoccuper de la colère de son supérieur. « Vous m'envoyez dans un autre quartier, alors que j'ai déjà pris toutes mes dispositions pour fouiller Saint-Martin et les innocents. C'est vouloir me mettre des bâtons dans les roues. J'aime mieux tout de suite donner ma démission. »
Monsieur Nicomède était sous le coup d'une belle fureur comique.
« J'ai du goût pour mon métier, » s'écria-t'il. « À preuve que mon oncle, qui est à Belion, voulait me mettre dans la basoche et que je suis parti au hasard pour suivre mes idées. Mais plutôt que d'être contrarié dans ma manière de travailler, je quitterai la carrière tout de suite. »
Et rouge comme une pivoine, le gros homme à face apoplectique tendit à son supérieur le feuillet qu'il tenait à la main. M. Marest avait là une belle occasion de persévérer dans sa mauvaise humeur en faisant un éclat. Mais au lieu de cela, on le vit se calmer tout à coup et répondre à l'agent.
« Oh oh, messire Nicomède, voilà du nouveau. Vous avez donc trouvé la bonne piste. Je vous connais, moi. » Et je sais que pour parler ainsi, il faut que vous n'ayez pas tout à fait perdu votre temps depuis hier. »
Et se radoucissant de plus en plus.
« Voyons, monsieur Nicomède, venez me dire tout bas ce que vous savez de bon. »
D'un geste, le policier avait fait signe aux agents de se retirer dans la pièce voisine, ce qu'ils firent en grommelant. Quand Marest eut vu disparaître le dernier, il revint anxieux vers l'agent qu'il avait gardé près de lui.
« Nous disons donc, Nicomède, que vous êtes sur la piste de monsieur le... »
Et se reprenant.
« Du prisonnier ?»«
Moi ? Pas du tout. Je ne vous ai pas parlé de ça. »«
Hein ?»
L'agent soutint le regard moitié ébahi, moitié furieux qu'on lui lançait.
« Mais je n'ai rien dit de semblable !»
reprit Nicomède sans se déconcerter.
« Ce que je maintiens, par exemple, c'est qu'en me laissant dans le quartier que j'ai exploré depuis hier, je pourrais apprendre ce qui vient faire certain bonhomme que j'ai cru reconnaître.
Ah, vous savez quelque chose, c'est sûr, fit M. Marest, redevenu subitement plus calme.
Je sais que le particulier que j'ai aperçu, dévisagé, suivi, ressemble, comme deux bottes de foin se ressemblent à...
À qui, corne du diable ? S'exclama l'impatient policier.
À un individu que vous connaissez aussi bien que moi, pardiette, et que nous avons vu presque chaque jour à l'hôtel de Monseigneur.
Picard ?
C'est tout à fait sa tournure, sa façon de marcher, sa pose lorsqu'il s'arrête pour regarder quelque chose dans la rue.
Comment ne vous êtes-vous pas assuré que c'était bien lui ?
Parce qu'il a dû me voir et me reconnaître, ce qui fait qu'il a pris illico presto la poudre d'escampette.
Maladroit.
Qui ça, lui ou moi ? Monsieur Marest haussa les épaules. Je ne vous permettrai pas, dit-il, de continuer à me raconter ainsi des balivernes si je n'espérais avoir au bout de tout ce bavardage un renseignement sérieux, une indication précise.
Je crois l'avoir.
Il ne suffit pas de croire, grommela le policier. L'agent reprit. Je suis aux trois quarts persuadé que c'est Picard que j'ai vu rôder dans le quartier Saint-Martin. Or, si le valet est là, ce n'est certainement pas pour le plaisir de contempler le portique de l'église Saint-Nicolas-des-Champs et en compter les bas-reliefs. Ma conviction, sauf votre avis, c'est que le maître ne doit pas être loin.
M. Marest comprenait sans doute la justesse de cette idée, car il se montra plus pressant pour interroger.
« Eh bien, fit-il, admettons que l'individu soit bel et bien le vieux domestique que nous connaissons. L'avez-vous suivi pas à pas ? Savez-vous s'il a parlé à quelqu'un ? Pourriez-vous le retrouver, enfin ?»
Nicomède répondit.
« Si je l'ai suivi, je n'ai fait que ça. Et lorsqu'il s'est arrêté devant l'église, je me suis arrêté et dissimulé dans une encoignure. Et j'ai très bien pu me persuader que c'était bien mon homme. Ah, par exemple, il faut lui rendre cette justice. Il était fameusement bien déguisé et grimé.
Enfin, demanda M. Marest impatienté, où a-t-il passé ? Par quelle maison est-il entré ? Le savez-vous au moins ?
Hélas, non, il a tout à coup disparu, comme si une trappe s'était ouverte sous ses pieds.
Et c'est pour me dire ça que vous me retenez ici ? Maladroit que vous êtes ?
C'est pour vous dire que je vais retourner à l'endroit où une première fois j'ai rencontré mon individu, qu'il y a gros à parier qu'il y reviendra. Je l'attendrai donc. Et cette fois, je ne le perdrai plus de vue. Je le suivrai, persuadé que c'est lui qui me fera pincer celui que nous cherchons.
Il y avait dans le raisonnement de l'agent quelque chose de vraisemblable qui fit dire à Marest.
Eh bien, allez au diable, si cela vous convient. Mais je vous réitère ce que j'ai dit à vos collègues. Dans 48 heures, le succès, ou bien vous déguerpirez d'ici. Et maintenant, filez.
À ce moment, un des agents demeurait dehors, m'a annoncé que le détachement des soldats du guet était arrivé et que l'officier demandait à parler à M. Marest. Tout fier de l'importance qu'on lui donnait, le policier fit une sortie théâtrale en intimant à ses subordonnés sa volonté que les ordres donnés fussent exécutés à la lettre et que chacun se trouvât, à l'heure indiquée, au point de ralliement convenu. Une fois ces hommes lancés dans les différents quartiers de la ville, M. Marest repassa dans sa tête ce que Nicomède lui avait dit de Picard. Et, enfin policier qu'il était, notre homme se dirigea vers le quartier Saint-Martin. Il marchait lentement, comme absorbé dans des réflexions. Il avait déjà parcouru la distance qui sépare la porte Saint-Martin de l'entrée de la rue de Nazareth, lorsqu'il s'arrêta subitement et se dissimula le plus qu'il put dans l'enfoncement d'une porte cochère. En ce moment, un homme passait rapidement devant lui.
Le chevalier de Vaudrey, en quittant l'hôtel du docteur Hébert, avait, ainsi qu'on l'a vu, passé par une vive émotion en apercevant le visage d'Henriette derrière les vitres de la croisée. Il l'avait retrouvée enfin, et s'il ne pouvait lui parler, comme autrefois, du moins avait-il la certitude qu'elle était libre et en sûreté. Alors, Roger eut hâte d'aller au rendez-vous qu'il avait pris avec son fidèle compagnon. De la rue Saint-Louis-du-Temple, il eût fallu, en temps ordinaire et en suivant la voie la plus directe, à peine 20 minutes pour se rendre à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Mais il lui fallait observer la plus grande prudence pour ne pas être rencontré et reconnu. Il ne pouvait douter au surplus que le lieutenant de police lui lançait des agents pour l'arrêter. La recommandation que lui avait faite le docteur de ne pas quitter l'hôtellerie du Faubourg Saint-Honoré
avant qu'il ne l'y vînt prendre, était la preuve évidente des recherches dont il était l'objet. Donc, le chevalier, pris par les petites rues qui s'enchevêtrent à partir de la place royale, filant la tête basse, comme un bourgeois pressé de rentrer chez lui après affaires terminées. Suivant les conseils de Picard, il s'était affublé d'une douillette violette qui lui donnait l'air d'un commerçant peu aisé, et son visage prenait un caractère tout différent sous la perruque rousse et bourriffée dont il avait jugé à propos de couvrir son chef. Toutes ces précautions qu'il eût dédaigné de prendre avant d'avoir retrouvé Henriette, il n'eut garde de les négliger. Il retrouvait l'espérance, sachant la jeune fille sous la protection du docteur Hébert. Affublé ainsi qu'on l'a vu, Roger passa effectivement sans exciter la curiosité des bonnes gens qui causaient sur le pas de leur porte. Arrivé à l'entrée de la rue Saint-Martin, il fila tout le long du trottoir opposé au côté où se trouvait l'église. Une fois devant le monument, il regarda tout autour de lui, fouillant des yeux les deux extrémités de la rue. Quelques rares passants circulaient, indifférents. Le chevalier, rassuré, traversa la rue et pénétra dans l'église. Les chapelles étaient vides. Seules quelques bonnes femmes agenouillées priaient silencieusement. Roger marcha jusqu'au maître-autel, le front incliné, mais lançant à droite et à gauche des regards, cherchant à rencontrer Picard. Tout à coup, en passant derrière la chaire, il se sentit tiré par le pan de sa douillette. Il se retourna et aperçut un homme agenouillé dans le coin formé par l'escalier conduisant à la chaire. Le chevalier devina que ce devait être Picard, car il lui eût été bien difficile de reconnaître son fidèle valet dans cet homme prosterné et dont le visage ne rappelait en rien celui du vieux domestique. Picard s'était fait une tête à sa façon et s'était grimé avec l'art d'un comédien. À le voir ainsi, on l'eût pris pour quelque habitué de l'église, venant matin et soir faire ses dévotions. Aussitôt que le chevalier se fut arrêté à côté de lui, Picard murmura « Mon maître, agenouillez-vous à côté de moi, assez près pour que nous puissions causer à voix basse. » Roger fit ce qu'on lui disait, et le dialogue commença. « Mon maître a-t-il appris du nouveau ?»« J'ai revu Henriette. » »« Dieu soit béni !» Et profitant de ce qu'il était agenouillé, le valet marmotta une courte prière. Mais Roger n'était pas d'humeur à prolonger cet entretien. « Ce que je puis te dire, c'est que... Monsieur le chevalier est heureux. Nous ne sommes pas au bout, Picard. Comment ? Puisque nous avons retrouvé notre bien-aimé. Hélas, je n'ai pu lui parler. Est-elle donc prisonnière ? Ce serait trop long de te raconter tout ce que j'ai fait depuis que nous nous sommes quittés. Sache seulement que si je suis venu au rendez-vous que je t'avais donné, c'est pour te faire mes adieux. Quoi ? Vous partez ? Je devais au brave serviteur qui m'a accompagné, qui m'a tant aidé, de venir lui dire que je le remerciais de sa fidélité. Hein ? Monsieur le chevalier veut... Je dois me séparer de toi, Picard. Quand ça ? Tout de suite ? Et pourquoi ? À l'instant même, mon ami. Et cela parce que je veux tenir une promesse que j'ai faite. Laquelle, mon maître ? À qui avez-vous pu promettre de vous débarrasser de celui qui est votre fidèle valet depuis si longtemps ? Le pauvre diable balbutiait. Le chevalier de Vaudreuil voulut le rassurer. « Sois sans crainte, mon ami, » fit-il avec un soupir. « Lorsque je serai absolument libre de mes actions, je trouverai bien le moyen de te faire rentrer en grâce à ton tour. »« Ah, c'est donc vrai. Vous me chassez. »« Écoute, en quittant ce lieu, je dois aller m'enfermer dans l'hôtellerie où j'ai pris un logement. »« Dans quel quartier ?»« Faubourg Saint-Honoré. Et je dois attendre là qu'on vienne me chercher. » « Qui ? Le docteur Hébert. C'est donc lui, maintenant, qui se charge de tout. Et moi, je ne suis plus bon à rien. » Mais soudain, la voix de Picard s'arrêta court, et le vieux domestique eut un tressaillement à la vue d'un individu qui venait d'entrer dans l'église et se trouvait en ce moment arrêté devant la chapelle opposée à la chaire. Picard avait reconnu un agent de police. Donc, son maître avait été filé, pensa-t-il. Le danger était imminent. Car, vraisemblablement, le policier n'était pas seul. Et aussitôt ses camarades arrivés, l'église serait visitée et fouillée, simultanément dans ses moindres recoins. Il était peu probable que l'on pût s'esquiver sans être arrêté à la porte par des agents demeurés de planton. Que faire ? Prévenir le chevalier était la seule chose facile, et Picard murmura. « Je viens de reconnaître Nicomède. Qu'est-ce que cet homme ? Un des plus rusés parmi les agents de Monseigneur, votre oncle. Diable ! Oui, c'est gênant, car elle va nous pincer ici, bien sûr.
Alors sortons.
Pas tous les deux ensemble.
Ce serait le moyen de faire immédiatement soupçonner notre identité.
Vous supposez bien, mon maître, que si ce gaillard est ici, c'est qu'il a filé l'un de nous deux.
Tu crois qu'il a pu nous reconnaître, malgré notre travestissement ?
Picard allait répondre lorsqu'il demeura comme subitement paralysé, les yeux dirigés fixes sur un autre individu qui, entré par le côté gauche de la porte, marchait à pas de loup vers la chaire.
« Qu'est-ce ? » demanda Roger.
D'un geste rapide, le valet indiqua l'homme qui s'avançait à tout petits pas, comme s'il eût glissé sur les dalles.
« Je reconnais celui-ci, » fit le chevalier.
« C'est...
Monsieur Marest. »
« Alors ?» continua le vieux domestique. « Il est évident que nous allons être suivis et que nous serons arrêtés, très certainement. »«
Pas ici, toutefois. »
« C'est juste. Dans une église, on est en sûreté. Mais ces gens-là vont nous attendre à la sortie. »«
Malheur au premier qui porterait la main sur moi !»
Et le chevalier de Vaudrey fit luire au regard de son compagnon la lame en acier niellé d'un poignard qu'il tira de sa gaine.
« Il vaut mieux essayer de leur échapper autrement. Tenez, mon maître, je connais parfaitement l'intérieur de l'église. Vous allez vous glisser tout le long des chaises qui sont empilées là, et vous trouverez un couloir qui, contournant le maître-autel, vous conduira à la porte de la sacristie. Pour ouvrir cette porte, il n'y a qu'à pousser le marteau. C'est un secret que connaissent les fidèles qui ont toujours accès auprès de monsieur le curé. Une fois dans la sacristie, vous pourrez facilement sortir par une porte donnant sur la ruelle derrière l'église. »
Le chevalier de Vaudrey avait immédiatement et sans répondre suivi le conseil qu'on lui donnait. Profitant de ce qu'il était masqué par les colonnes qui supportaient la chaire, il se glissa derrière les piles de chaises et disparut. Le pauvre Picard, demeuré seul, poussa un long soupir qui témoignait de l'ennui qu'il éprouvait à se séparer de son jeune maître. Mais il n'eut pas beaucoup de temps à donner à ses regrets. M. Marest était arrivé tout près de lui sans qu'il l'eût entendu marcher. Le policier, la tête inclinée comme s'il eût été là pour prier, prit place à côté du valet. Picard ne broncha pas. Ses lèvres se mirent à marmotter des phrases qui invariablement avaient des terminaisons latines. Bientôt, pour mieux donner le change à son voisin, il se mit à genoux. M. Marest s'agenouilla également. Il était clair pour le vieux serviteur que l'on n'attendait que le moment d'entamer conversation avec lui. Au surplus, il n'espérait pas pouvoir s'échapper et ne pensait qu'au moyen de retenir là les deux agents afin de donner au chevalier le temps d'exécuter le programme qu'il lui avait tracé. Et mentalement, le brave bonhomme se disait qu'il était destiné à favoriser toutes les évasions de son jeune maître. Donc, il eut l'air de se plonger plus avant encore dans de pieuses méditations, faisant de temps à autre un signe de croix. Aussitôt, du reste, le policier imitait le signe, comme s'il eût été disposé à calquer ses gestes, sa tenue et ses jeux de physionomie sur ceux de son voisin. Pendant ce temps, Picard calculait les minutes qu'il faudrait au chevalier pour sortir de l'église et gagner du terrain sur les agents lancés à sa poursuite. La seconde préoccupation du valet était de savoir ce qu'allait faire l'agent de police qu'il avait reconnu pour être Nicodème. Celui-ci n'avait pas bougé de l'endroit où il se trouvait au moment où le valet déguisé l'avait aperçu. Seulement, à présent, il se mettait en mouvement pour traverser l'église. Son intention était vraisemblablement de se diriger vers les deux prieurs, agenouillés l'un à côté de l'autre. « Bon, » pensa Picard, « il arrive pour prêter main forte à son supérieur. S'ils ne m'ont pas encore reconnu, je ne pourrai certainement pas échapper longtemps à leur curiosité. » Et persuadé qu'il n'y avait rien à tenter pour fuir, le bonhomme baissa la tête et se remit à mâchonner son latin de cuisine. Bientôt, il put juger qu'il ne s'était pas trompé sur les intentions de Nicodème. L'agent arriva doucement dans le rang des chaises dont les deux premières étaient déjà occupées par M. Marest et Picard, et se plaçant à côté de celui-ci, il s'agenouilla à son tour. Le valet ne put qu'à grand-peine contenir un mouvement de surprise. La situation se compliquait pour lui. Mais il se dit que plus les deux policiers s'acharnaient après lui, et plus le chevalier de Vaudrey aurait chance de leur échapper. Il se résigna donc à accepter de demeurer là comme un appât. Et feignant de se déranger un peu pour faire place au nouveau venu, il recula sa chaise sans toutefois lever les yeux. « Ne vous dérangez donc pas, monsieur Picard, » fit l'agent à voix basse, et continuant sur le même ton. « Il paraît, » ajouta-t-il, «
que nous nous sommes donné le mot pour nos dévotions. » Et en parlant ainsi, Nicomède indiquait de l'œil M. Mareste. Pour le coup, le valet ne pouvait garder le silence, car il était évident pour lui que les deux policiers s'étaient entendus pour le filet. Du reste, l'employé du lieutenant de police prit à son tour la parole en disant « Je ne m'attendais guère à vous rencontrer en ces lieux, mon cher Picard. » « Je suis dévot, n'est-ce pas mon droit ?» grommela le vieux serviteur de la maison de Vaudrey. « Certes. Alors, pourquoi vous étonner ? De vous voir ainsi affublé d'un déguisement ?» Picard ne s'attendait pas à la réplique, fit un geste de surprise et baissa la tête de façon à ce que son front s'appuyât sur le dossier du prie-Dieu. « C'est égal, » fit Nicomède au bout de quelques secondes de silence. « Il faut avoir joliment bon œil pour vous avoir découvert sous cet accoutrement. » Le valet se sentait pris. Mais il voulait maintenant retenir autant que possible les policiers afin de donner au chevalier encore un peu plus de temps. Aussi répondit-il. « Si j'ai changé de costume, cela ne peut nuire à la prière que je fais. » « Parfaitement juste. Et s'il me plaisait de prendre un autre costume demain, où serait l'inconvénient ?»« Je n'en vois pas. Alors pourquoi me questionnez-vous avec cette persistance ?»« Histoire de causer, avec un bon et excellent homme, tout à fait dévoué à ses maîtres. »« En douteriez-vous ?»« Moi, Dieu me préserve d'avoir un pareil soupçon. Je suis certain. » « De quoi ?» interrompit vivement Picard. « Que vous êtes tellement empressé à servir vos maîtres que vous ne devez pas ignorer ce qu'est devenu l'un d'eux. »« Monseigneur le lieutenant de police ?» fit sournoisement le domestique. « Non, l'autre !» Pendant que ce dialogue s'échangeait rapidement entre les deux hommes, M. Mareste, placé, comme on sait, de l'autre côté de M. Picard, ne perdait pas un mot de la conversation. Silencieux comme il convient à un pieux personnage qui vient à l'église pour y faire ses dévotions, l'employé de police attendait le moment d'intervenir. Aussi profita-t-il de la réplique de son agent subalterne pour dire « Le chevalier de Vaudrey, parbleu !» Puis regardant le valet, M. Mareste ajouta « C'est le moment, mon cher Picard, d'écarquiller vos yeux et de donner à votre physionomie l'expression de la plus grande stupéfaction possible, absolument comme si vous ignoriez ce qu'a pu devenir votre maître. » depuis qu'il s'est évadé de la Bastille. » Picard sentit la pointe d'ironie, mais décidé à gagner du temps, il riposta. « Vous avez la plaisanterie facile, monsieur Mareste. Cependant, vous devez bien savoir que la nouvelle que vous m'annoncez de la disparition de monsieur le chevalier ne peut que me tourmenter l'esprit. » « C'est peut-être parce que votre esprit est troublé, surenchérit le policier, que vous avez également disparu de votre logement de l'hôtel de Lignières. » où l'on ne vous a pas vu depuis nombre de jours. » Nicomède voulut avoir lui aussi son petit succès d'ironie, dont son supérieur accaparait la meilleure part. « C'est probablement aussi par excès de tourment, fit-il, que vous avez pris ce costume, qui n'est pas précisément celui d'un valet de confiance, du magistrat très illustre et très puissant que nous servons. » Picard avait une réponse toute prête. « Si monseigneur a quelque chose à me reprocher, mon maître peut me renvoyer. « Me chasser ?»« Vraiment ?» fit Nicomède. « Vous vous contenteriez de cela ?»« Il peut me faire arrêter et m'envoyer finir mes jours dans un cabanon de la Bastille ou au donjon de Vincennes ?» puis regardant alternativement ses deux voisins. « Eh, mais » ajouta-t-il d'un ton qu'il voulut rendre effrayé. « Vous avez peut-être déjà reçu l'ordre ?»« De vous arrêter ?» interrompit Nicomède. « Vous savez bien, mon vieux renard, » déclara M. Mareste, que vous êtes en sûreté ici, et qu'on ne peut arrêter quelqu'un dans une église. « Alors, » prononça le valet, « vous allez me suivre jusqu'à la porte, et vous attendrez que j'ai mis le pied dans la rue pour me mettre la main au collet ?» Nicomède allait répondre. Sur un imperceptible signe de son supérieur, il garda le silence. Picard comptait mentalement les minutes. Dans sa pensée, le chevalier de Vaudrey devait être déjà assez loin pour n'avoir rien à redouter des deux agents. Aussi fit-il mine de vouloir quitter le prie-Dieu sur lequel il était pendant tout ce temps demeuré agenouillé. En même temps que lui, ses deux voisins se levèrent automatiquement. « Nous allons donc nous retirer ensemble ?» demanda-t-il, simulant un commencement d'inquiétude. « C'est probable, puisque vous me semblez vouloir sortir. Mais, au fait, » interrogea le valet en se ravisant tout à coup, « c'est donc simplement le hasard qui vous a fait entrer à Saint-Nicolas-des-Champs ? Nicomède regarda son supérieur comme pour lui donner la parole. Ce fut M. Marest qui répondit.
« Non, mon ami Picard, nous sommes venus ici parce que nous savions vous y trouver. »
Le valet eut un soubresaut.
« Parbleu, la belle affaire !» ricana le policier.
« Lorsque l'on a l'honneur de servir Sa Majesté le Roi de France et Monseigneur le lieutenant de police, quoi d'extraordinaire à ce qu'on s'ingénie à rencontrer les gens qu'on a besoin de voir !»«
Vous aviez donc besoin de me voir ?» s'exclama le vieux domestique.
« Qui sait ?» fit Marest.
« C'est ce que nous allons savoir tout de suite !» conclut Picard.
Et bravement, il se dirigea vers la porte pour sortir.
« Où courez-vous donc comme ça si vite ?»
s'informa Nicomède d'un air narquois.
« Est-ce que par hasard vous voudriez aller retrouver votre maître ?»
ajouta M. Marest avec ironie.
« Vous plaisantez agréablement, messieurs, » soupira le valet. « Mais je ne suis pas d'humeur aussi joyeuse que vous. J'ai le droit d'être inquiet de ce que vous m'avez appris concernant mon jeune maître. »
« Cependant, nous pouvons vous rassurer. »«
Hein ?»«
Mon Dieu, oui. Point n'est besoin de vous presser tant. Monsieur le chevalier de Vaudrey est, vous le savez aussi bien que nous, venu dans cette église. »«
Quoi ?»«
Nous l'avons vu et reconnu, » déclara Nicomède.
« Si bien vu même, » ajouta Marès, « que nous savons qu'il est sorti par la porte de la sacristie. »
Picard s'était arrêté court au moment de franchir le seuil.
« Cela vous étonne, mon vieil ami ?» fit le policier.
« Mais je vous en dirais même plus long si vous n'étiez pas si pressé de nous quitter. » Picard ne pensait plus à fuir. Il regarda son interlocuteur d'un air de stupéfaction si comique que malgré la sainteté du lieu où il se trouvait, les deux agents ne purent s'empêcher de rire. M. Marest reprit presque aussitôt.
« Voilà ce qui s'est passé. À peine M. le chevalier s'est-il trouvé dehors qu'il a été filé pas à pas.
Par qui ?
Parbleu, la belle question, mais par un de mes agents les plus subtils, lequel, vous pouvez m'en croire, ne l'a pas un seul instant perdu de vue. »
Picard roulait de grands yeux effarés.
« Que voulez-vous ? » continua Marest. « Chacun son métier dans ce monde. Donc, mon vieil ami, votre maître aura beau chercher à savoir s'il a été suivi, il n'aura certainement pas aperçu l'agent chargé de le filer. Et à l'heure qu'il est, je puis vous annoncer que mon homme est aux trousses de monsieur le chevalier de Vaudrey et qu'il ne le perd pas d'une semelle. »
Puis après un court silence, « Il me semble les voir tous deux marchant à quelques pas l'un de l'autre, arrivés ensemble. »
« Où ?» fit tout à coup Picard.
« Mais dans la maison où monsieur de Vaudrey a trouvé à se loger. »
« Ah ah !» s'exclama le valet, persuadé que Marest ignorait l'endroit. « Je ne vous dirai pas au juste vers quel quartier votre maître s'est dirigé, ni où il habite, depuis qu'on ne l'a vu à l'hôtel de Lignières. Dans une auberge, hôtellerie ou ailleurs. Mais en quelque lieu qu'il se trouve, je suis persuadée qu'il n'échappera pas à mes hommes. »
« Oh oh ! Vous trouvez que c'est de la prétention de ma part d'affirmer de la sorte ?
Eh bien, détrompez-vous, mon vieux Picard. D'ici ce soir, monsieur le chevalier de Vaudrey sera pris au gîte. »
Le vieux serviteur eut une révolte en entendant comparer son maître à un lièvre qu'on prend au gîte.
« Insolent !» murmura-t-il entre ses lèvres.
Marest releva le mot.
« On n'est pas un insolent, dit-il, lorsqu'on exécute fidèlement les ordres de monseigneur le lieutenant de police. Celui qui mérite la qualification injurieuse que vous avez laissée échapper est bien plutôt le valet qui abuse de la confiance absolue que l'on a eue en lui. »
Mais Picard n'écoutait plus. Persuadé maintenant que Roger allait tomber dans le piège qu'on lui avait tendu, le pauvre bonhomme ne pensait plus qu'à tenter l'impossible. Il s'élança dans la rue, comme s'il eût eu l'intention de courir jusqu'à l'hôtel du Faubourg Saint-Honoré pour essayer de prévenir Roger. Mais déjà, les agents étaient auprès de lui, chacun d'eux l'arrêtant par un bras. Et M. Marest, de plus en plus gouailleur, lui lançait ces mots.
« Comment, mon bon ami, vous voulez nous brûler la politesse ? Comme ça ?»
« Il serait plus convenable de nous serrer la main avant de nous séparer. » Picard n'en croyait pas ses oreilles.
« Comment ? » fit-il étonné. « Nous allons nous séparer ? » ?»«
Il le faut bien. Nous avons affaire ailleurs, Nicomède et moi. Et malgré tout le plaisir que nous éprouvons en votre société, vous nous voyez désolés de vous quitter. »«
Mais, » balbutia le valet, « vous ne m'arrêtez donc pas ?»«
Nous ? Et pourquoi vous arrêterai-je ? » dit Marest. Nicomède riait sous cape de voir la drôle de figure que faisait le bonhomme.
Monsieur Marest reprit. « Vous êtes libre, mon cher ami. de vous en aller où bon vous semblera, comme par le passé. Pour arrêter les gens, il nous faut des ordres. »
« Et Monseigneur ne vous en a pas donné ?»
interrompit le valet.
« Pas en ce qui vous concerne, Monsieur Picard. »«
Mais c'est impossible !»«
Tenez, brisons-la. Nous n'avons pas, Nicomède et moi, de temps à perdre aujourd'hui. »
Les deux hommes de police allaient se retirer après avoir salué ironiquement le valet interloqué. Monsieur Marest voulut ajouter un dernier mot.
« Si j'ai un conseil à vous donner, dit-il, c'est de ne pas rentrer à l'hôtel affublé comme vous l'êtes. On ne manquerait pas de croire que vous avez un tout petit grain dans la cervelle. Croyez-moi, reprenez votre livret et allez vous enfermer pendant quelques heures dans votre logement. Il pourrait bien se faire que Monseigneur le comte de Lignières vous fît appeler dans son cabinet.
Pour m'interroger, n'est-ce pas? Vous voyez bien que mon maître ne veut pas, comme vous le disiez, que je demeure en liberté. »
Et prenant un ton de profonde résignation, il prononça ces mots.
« Monsieur Marestre, il n'y a pas besoin d'user de subterfuges avec moi. Accomplissez votre devoir. Je suis prêt à vous suivre sans résistance. Arrêtez-moi. »
Pour toute réponse, les deux policiers partirent d'un homérique éclat de rire et tournèrent les talons. Alors, Picard entrevit la situation telle qu'elle était réellement. On s'était, pensa-t-il, servi de lui pour filer et prendre le chevalier comme dans une souricière. Et c'est lui qui avait, pour ainsi dire, livré son maître aux agents. N'avait-il pas eu la malencontreuse idée de lui donner rendez-vous dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs? Et tandis qu'il croyait jouer au plus fin avec les hommes de police, M. Marest l'avait emporté sur lui avec une habileté incontestable. Tout confit dans sa vanité, il ne s'était aperçu de rien, jusqu'au moment où il n'était plus temps de porter secours au chevalier. Et maintenant, que faire? Le temps avait marché. Il avait perdu plus d'une heure à causer inutilement. Parbleu! C'était bien là le jeu du policier, de lui faire croire jusqu'au dernier moment qu'il était venu dans l'église avec un de ses plus habiles subalternes, tout exprès pour l'arrêter. L'arrêter! Ah, on le jugeait bien trop peu de choses pour lui faire cet honneur. Non, on le laissait libre de retourner tranquillement à l'hôtel de Lignières, comme si rien de grave pour lui ne s'était passé, comme s'il n'avait pas été l'âme de l'évasion de son jeune maître, en préparant tout ce qu'il fallait dans ce but. Désormais, se disait le pauvre désillusionné, il n'avait plus qu'à aller, ainsi que le lui conseillait Marest, attendre dans son logement que le lieutenant de police voulût bien le faire comparaître devant lui et lui reprocher sa trahison. Oui, c'est bien ce qu'il ferait, après s'être dépouillé de son déguisement. Puis, par un de ces retours brusques de la pensée, il vit la situation se compliquant de nouveau par le fait de l'arrestation de Roger. Retombé au pouvoir de son oncle, le chevalier de Vaudrey ne pourrait plus revoir Henriette. C'était impossible. Jamais Roger ne consentirait à être séparé de celle qu'il aimait en dépit de toutes les remontrances, de toutes les colères. Jamais il ne se laisserait arrêter. Elle mettrait plutôt l'épée à la main contre toute cette fripouille de police. Picard n'en pouvait douter, connaissant si bien son jeune maître. Malheur aux agents qui voudraient exécuter quand même les ordres reçus. Et lui, le fidèle serviteur, il ne serait pas là à côté de son maître bien-aimé pendant cette bagarre. Corne de bœuf, ce serait manquer au plus sacré des devoirs, se disait-il tout haut. Et tout bouillant de colère, Picard se mit à courir dans la direction du faubourg Saint-Honoré. Il haletait tout en poursuivant son chemin de toute la rapidité de ses jambes et redoutant d'arriver trop tard. Picard avait eu le pressentiment de ce qui devait advenir. En effet, le chevalier de Vaudrey, une fois sorti de l'église, avait fait diligence pour suivre les conseils du docteur Hébert. Sans se préoccuper de savoir s'il était suivi ou non, il prit la direction du faubourg Saint-Honoré, bien décidé à attendre dans l'hôtellerie jusqu'à ce que le médecin lui eût fait parvenir des nouvelles. Son parti était pris du reste de retourner, ainsi qu'il l'avait promis, à l'hôtel de Lignières et de se représenter devant son oncle, dût-il encourir les remontrances les plus sévères. Il avait désormais dans le docteur Hébert un allié sur lequel il pouvait compter absolument, et cette pensée le réconfortait. Il savait Henriette à l'abri d'aventures, sous la protection toute paternelle d'un ami dévoué qui tenait à cœur de mener à bien son projet. Du reste, le docteur Hébert n'avait-il pas, sans vouloir se découvrir, laissé luire à ses yeux une espérance vague? Roger avait senti tressaillir son âme, et c'est sous le coup de l'impression éprouvée qu'il avait maintenant hâte d'arriver à l'auberge. Là, en attendant le messager que devait lui envoyer le docteur, il pourrait rêver à la pure et douce créature
qu'il n'avait fait qu'entrevoir dans l'encadrement de la croisée et qui, par cette apparition inespérée, avait semblé vouloir le récompenser de toutes les douloureuses épreuves subies pour elle. Comment eût-il pu en douter lorsqu'elle avait pris soin d'amener auprès d'elle, à la fenêtre, la chère aveugle tant pleurée? N'avait-elle pas voulu lui dire qu'un de ses chagrins avait enfin disparu, à présent qu'elle avait auprès d'elle la pauvre affectionnée? N'était-ce pas aussi une façon de faire comprendre qu'elle n'avait pas oublié tous les efforts tentés par lui, toutes les démarches faites dans le but de retrouver Louise, et qu'elle le remerciait de sa sollicitude pour elle? Oui, Roger était persuadé qu'il avait bien compris la pensée de la jeune fille, mais il voulait voir aussi, dans le regard qu'elle lui avait adressé, une promesse d'affection éternelle, quoi qu'il pût arriver par la suite. Et transporté d'amour, lui qui, quelques jours auparavant, avait senti le découragement envahir son âme, il se prenait à espérer. Aussi avec quelle ardeur marchait-il sous l'impulsion de sa pensée surexcitée. Certes, si en ce moment Picard le rejoint pour lui annoncer à quel danger il courait en s'engageant dans le faubourg Saint-Honoré, Roger eût probablement rebroussé chemin pour retourner à l'hôtel du docteur Hébert, afin de le tenir au courant des ordres donnés par le lieutenant de police. Il eut beau se mettre en eau pour essayer d'arriver à temps, Roger était déjà sur le seuil de l'auberge où il avait pris logement, que Picard était encore dans la rue Saint-Martin, tout étonné qu'on l'eût laissé en liberté. Le chevalier de Vaudreuil pénétra dans le corridor avec précipitation et enfila l'escalier pour monter à la chambre qu'il avait louée au premier étage de l'hôtellerie. Il venait à peine de refermer sa porte que son attention fut attirée par un grand vacarme qui se faisait dans le faubourg. Courant à la fenêtre, il vit beaucoup de personnes qui descendaient la rue en courant, comme s'il se passait au-dessous quelque chose d'intéressant. Roger embrassa du regard, autant qu'il put le faire, la longueur du faubourg et aperçut des deux côtés de la rue des groupes se formant pour assister au passage d'exemples de police et de soldats du guet. Ceux-ci pénétraient dans toutes les maisons dont l'enseigne indiquait une hôtellerie, une auberge ou un cabaret. Aussitôt, la foule se pressait à la porte de l'établissement pour tenter d'apprendre le motif de ces visites domiciliaires. Et le bruit circulait que la police recherchait un grand criminel qui avait, par miracle, trouvé le moyen de s'évader de la Bastille. Des passants causaient de la chose qui passèrent sous la fenêtre et leurs paroles arrivèrent jusqu'à Roger. Aussitôt, il se rejeta instinctivement en arrière, fermant le vitrage de la croisée, dont il ne laissa ouvert qu'un carreau mobile. Et tout inquiet, il se mit à écouter les bruits de la rue. Les soldats et exemples devaient approcher, à en juger par le tumulte qui devenait de plus en plus fort. Et de fait, risquant un regard par le carreau ouvert, le chevalier put voir un groupe se former juste en face de l'auberge. En même temps, les soldats du guet faisaient résonner les crosses dans le corridor. Il y avait altercation entre l'aubergiste et les agents de la police. Le patron prétendait qu'il ne donnait pas asile à des malfaiteurs. Les agents, excipant d'ordre reçu, voulaient à toute force fouiller l'établissement, monter à tous les étages, se faire ouvrir toutes les portes. L'aubergiste, furieux, criait avec l'intention d'être entendu par la foule. « C'est une indignité! On veut perdre ma maison! Les voyageurs ne voudront plus demeurer dans mon établissement, où les soldats du guet et les exemples ont le droit d'entrer comme dans un corps de garde. On me ruine! On me ruine !» Déjà, à l'époque où nous sommes arrivés du règne de Louis XVI, il y avait une grande fermentation dans le peuple. On ne craignait plus de crier contre la police et bien des attentats se commettaient journellement contre les agents isolés qui se risquaient dans certains quartiers habités par la populace turbulente. Aussi, au cri de l'aubergiste, il y eut une poussée dans la foule, laquelle porta les premiers spectateurs au milieu du corridor. En ce moment, les soldats étaient tellement pressés que le sergent commanda de refouler tout le monde. Une bagarre était imminente pour peu qu'un soldat ou agent eût touché à l'un des hommes du peuple qui se trouvait là. Heureusement que le sous-officier qui commandait eut l'idée de haranguer convenablement tous ses assistants. « Mes amis, dit-il, nous remplissons un devoir qui nous est imposé par nos chefs, et nous ne pouvons désobéir à ceux qui nous commandent. Au lieu de nous injurier, est-ce qu'il ne serait pas préférable de nous prêter main forte? Est-ce que vous n'êtes pas tous d'honnêtes gens, incapables d'empêcher qu'on arrête des coupables ?» Pendant ce temps, les soldats s'étaient remis en rang et refoulaient les curieux. Bientôt, le corridor fut évacué et la porte fermée. À partir de cet instant,
malgré les protestations de l'aubergiste, les agents purent opérer la visite des logements. L'un d'eux arriva à la porte de la chambre occupée par le chevalier de Vaudrey et frappa en criant
« Au nom du roi, ouvrez !»
Roger ne répondit pas à cette première injonction. L'agent renouvela l'ordre au nom du roi. Puis, appelant l'aubergiste, il lui demanda s'il ne possédait pas une seconde clé de la chambre. Roger s'était approché tout doucement et l'oreille collée contre la porte, il put entendre le dialogue suivant.
« C'est un voyageur arrivé d'hier, » disait l'aubergiste. « Et je vous assure qu'il a l'air d'un bien honnête jeune homme. Du reste, il a son cheval dans l'écurie. C'est une jolie bête, qui vaut bien 100 écus, tout au moins.
Est-il chez lui ?
Qui, le cheval ?
Mais non, le voyageur.
Il y est pour sûr, puisque je viens de le voir monter.
Pourquoi n'ouvre-t-il pas ?
C'est qu'il s'est endormi, probablement.
Alors, l'agent se mit à frapper contre le panneau, à coups redoublés, tandis que l'aubergiste criait de son côté.
« Ouvrez-nous, monsieur le voyageur, c'est l'affaire d'un instant. Ces messieurs ont l'ordre de visiter partout. »
L'agent cognait de plus en plus violemment. Tout à coup, il manifesta l'intention de faire sauter la serrure. L'aubergiste se récriait, disant qu'on allait détériorer sa maison. Alors, le chevalier sentit la colère lui monter au cerveau. Ne doutant pas que l'homme de police ne mit bientôt son idée à exécution, il voulut éviter le scandale qui allait inévitablement suivre. Et ouvrant brusquement la porte, il se présenta sur le seuil, étoisant l'agent.
« De quel droit frappez-vous ainsi ? » demanda-t-il avec hauteur.
En présence de cette attitude si ferme, les assistants demeuraient dans le couloir, n'osant pénétrer dans la chambre dont Roger défendait l'entrée. Mais au bruit, d'autres policiers et le sergent du guet arrivèrent, jugeant qu'il y avait lieu de prêter main forte à l'agent dont ils entendaient les éclats de voix. Celui-ci reprit courage et faisant un pas vers le chevalier. «
Veuillez, monsieur, me dire qui vous êtes et d'où vous venez. »
Roger avait pâli et ses yeux dardaient des éclairs.
« Je n'ai pas à vous dire mon nom, » fit-il brusquement. « Si vous cherchez quelqu'un, vous devez savoir si je suis celui-là. »
L'agent, nouvellement embrigadé dans la police de M. Marest, ne connaissait pas le chevalier. Aussi hésitait-il à répondre lorsqu'un exemple, écartant les assistants, se présenta en disant à Roger
« J'ai l'honneur de connaître monsieur le chevalier de Vaudrey. »
À ces mots, le sergent s'avança et faisant le salut militaire.
« C'est précisément monsieur le chevalier de Vaudrey, » dit-il, « que nous avons l'ordre de… »
Il n'acheva pas. D'un bond, Roger avait fondu sur lui et saisissant la poignée du sabre du sergent, il mit la lame au clair. Puis, rompant de deux pas, il tint les assistants en respect devant la pointe du sabre. Certes, le chevalier voulut éviter le scandale d'une arrestation de vive force. C'était qu'il se rappelait les paroles du docteur Hébert, lequel lui avait recommandé de ne pas bouger avant d'avoir reçu un message de lui. Par conséquent, il pouvait supposer que le lieutenant de police voulait le faire incarcérer de nouveau à la Bastille. C'était alors la ruine immédiate des espérances que lui avait fait concevoir sa conversation avec le protecteur des deux orphelines. Roger se dit qu'il allait être séparé encore une fois d'Henriette et le sang bouillonna dans ses veines. Il ne vit qu'une chose, c'est qu'il fallait coûte que coûte échapper aux agents du lieutenant de police. Et le sabre en main, il résolut d'ouvrir un passage.
« Place ! » cria-t-il d'une voix forte en fondant sur le sergent désarmé et les agents arrivaient à la rescousse.
Devant la lame menaçante, les assistants firent un pas de retraite pour se reformer en ligne en haut de l'escalier. Du corridor, les cris de menace arrivaient jusqu'au chevalier. Mais lui, lancé contre cette muraille humaine, continuait à crier
« Place ! Place !»
La lame du sabre décrivait de terribles et rapides moulinets qui à chaque fois permettaient à Roger d'avancer de quelques pas. Mais les poitrines refoulées se retrouvaient un peu plus loin, présentant toujours le même obstacle à la marche du chevalier. La situation devenait de plus en plus mauvaise, car Roger allait bientôt se trouver dans l'obligation de mettre ses menaces à exécution ou de se livrer aux exemples, décidé à exécuter les ordres reçus, et cela même au péril de leur vie. Tout à coup, un bruit de clameur monta dans la rue. C'était du renfort qui arrivait pour dégager les soldats et agents que dans le quartier on disait en mauvaise passe. On prétendait qu'ils étaient pris dans l'auberge comme dans une souricière. Aussi, les pelotons de soldats qui fouillaient plus bas dans la rue, les établissements désignés, étaient-ils accourus au bruit. On frappait à la porte qui s'ouvrait après que le mot d'ordre eût été échangé. M. Marest et Nicomède, suivis de quelques hommes, s'élancèrent dans l'escalier. Devant eux, toute la foule s'écarta pour leur livrer passage. L'employé du lieutenant de police put ainsi présenter sa poitrine au sabre de Roger. Il le fit bravement, comme un soldat qui ne recule pas devant le devoir. Et s'adressant au gentilhomme, « J'ai l'honneur, dit-il, de supplier humblement Monsieur le chevalier de Vaudray de vouloir bien se rendre auprès de Monseigneur le comte de Lignières. » Sans répondre, Roger brandit son sabre, prêt à fondre sur l'agent. Mais celui-ci ne broncha pas. Toujours respectueux et le tricorne à la main, il continua. « Que Monsieur le chevalier veuille bien excuser la façon un peu brutale dont les agents ont procédé à son égard. Il ne pouvait être question d'une arrestation. Au surplus, puisque j'ai eu l'honneur de dire à Monsieur le chevalier ce que désirait Monseigneur, il est inutile que ces hommes demeurent ici. » Et se tournant vers eux, il donna l'ordre d'évacuer immédiatement l'auberge. Exemple, soldats et agents se retirèrent, non sans tumulte. Seul le sergent des armées, voulant rentrer en possession de son sabre, demeura sur la première marche. Il se tenait militairement au port d'armes, les yeux fixés sur le chevalier. Roger, comprenant ce regard, jeta l'arme à ses pieds, se croisa les bras et dit à Marest. « Je me rendrai au désir de Monsieur le comte de Lignières. Vous pouvez vous retirer. » Le policier s'inclina, mais sans bouger. « Qu'est-ce à dire ? » fit le chevalier avec hauteur. « Et pourquoi ne me faites-vous pas place ?» Monsieur Marest balbutia une façon d'excuse. Dans la phrase entortillée qu'il formula, Roger comprit que le comte de Lignières avait donné des ordres précis auxquels l'agent ne pouvait contrevenir. « Le lieutenant de police, s'exclama de Vaudray, n'a pu vouloir que vous m'appréhendiez au corps comme un malfaiteur et que je me résigne à vous suivre entre deux de vos collègues. » Marest s'inclina de nouveau sans répondre. Roger fit un pas pour écarter le policier. La moindre résistance de la part de celui-ci allait incontestablement provoquer quelque grave incident, étant donné que le chevalier se laissait envahir par la colère. Mais à ce moment, un bruit de voix arrivant du corridor attira l'attention des assistants. Roger et Marest dirigèrent en même temps leur regard vers l'escalier, au bas duquel se montrait un individu luttant contre les soldats et les agents qui s'opposaient à son passage. « Attendez-moi, monsieur le chevalier !» criait cet homme qui se débattait comme un forcené. « J'accours pour vous aider à sortir d'ici !» Et culbutant les deux plus acharnés, Picard, car c'était le vieux domestique, s'élança sur les marches qu'il gravit rapidement pour venir se planter devant Marest. « Ah, malheureux que je suis !» s'écriait le valet de Roger, faisant la plus piteuse mine qui se puisse imaginer. « J'arrive trop tard, mais il ne sera pas dit que j'abandonnerai mon maître dans cette circonstance. » Et s'adressant à Marest, « Emmenez-moi » cria-t-il. « Emmenez-moi ! Tenez, voici mes poignets pour les menottes. S'il y a quelqu'un de coupable, c'est moi, moi seul !» Il présentait ses bras d'un air si piteusement comique que dans l'assistance, quelques rires éclatèrent. Mais lui, sans se déconcerter. « Traînez-moi devant monsieur le lieutenant de police, pour qu'il m'inflige le châtiment que j'ai mérité. Je suis prêt à vous suivre. » Il pressait si fort le policier que celui-ci dut l'écarter d'un revers de bras en répliquant. « Mais je n'ai pas d'ordre pour vous arrêter, monsieur Picard. Si vous êtes coupable, c'est jusqu'à présent... « une affaire à régler entre vous et votre conscience. Quant à moi, je ne puis rien faire pour vous en cette circonstance. » Ce qui n'empêchait pas le valet de Roger de crier plus fort que jamais. « Arrêtez-moi ! Empoignez-moi ! Entraînez-moi ! Je ne ferai pas de résistance !» Cette scène menaçait de se prolonger. Marest se décida à tenter un moyen nouveau. « Monsieur le chevalier, dit-il à Roger, ne saurait mettre en doute le désespoir où je suis. Moi, son indigne valet, d'avoir à exécuter les ordres qui m'ont été donnés. Cependant, je ne puis manquer à mon devoir sans compromettre ma position et risquer de briser mon avenir. Mais on le brise, monsieur Marest. On n'hésite pas à le briser, interrompit Picard, lorsqu'il s'agit de rendre service à monsieur le chevalier qui daigne accepter ce sacrifice. Et s'inclinant devant Roger, n'est-ce pas, monsieur le chevalier, que nous daignons accepter le service que veut nous rendre monsieur Marest? Pour le coup, l'hilarité devint plus bruyante autour des personnages de cette scène tragicomique. Dans la rue, la foule assemblée devant la porte s'impatientait, attendant de voir paraître le prétendu malfaiteur pour la capture duquel on avait mis sur pied toute la police et les soldats du guet. Les vociférations augmentaient à mesure que le temps s'écoulait.
Il ne fallut rien moins que les claquements du fouet d'un cocher, huché sur le siège d'un carrosse de louage, pour détourner l'attention de tous ces énergumènes. Cette fois, la lieutenant de police lui-même, glapit un faubourien de sa voix traînarde. Et 20 têtes s'avancèrent pour voir la personne qui se trouvait dans l'intérieur du véhicule. Pendant ce temps, la portière s'ouvrait et le docteur Hébert descendait à la porte de l'hôtellerie. Devant le personnage à la figure si vénérable et sympathique, un passage s'ouvrit entre les rangs pressés des assistants. Les cris cessèrent comme par enchantement. Arrivé devant le soldat qui gardait l'entrée de l'auberge, le médecin lui adressa à voix basse quelques mots. Le soldat appela un agent qui, ayant disparu dans le corridor, revint au bout de quelques instants prier le docteur de bien vouloir pénétrer dans l'auberge. En apercevant du bas de l'escalier Marest, M. Hébert lui fit signe de venir à lui. Le policier ayant obéi, le docteur lui parla tout bas et sans doute ce qu'il communiqua à l'employé de police dut mettre la responsabilité de celui-ci parfaitement à couvert, car aussitôt il donna l'ordre aux gardes et agents de se retirer dans la salle du rez-de-chaussée où il alla les rejoindre. Picard l'y avait suivi sur l'invitation du docteur qui désirait rester seul avec le chevalier. L'infortuné domestique voulait toujours et à tout prix remplacer son maître puisqu'il fallait que les agents emmenassent quelqu'un. Il suppliait qu'on l'entraînât devant le lieutenant de police. Force fut à Marest, pour mettre fin à cette scène, d'accepter de le faire marcher au milieu d'une escorte d'agents et de soldats du guet. Et la foule qui attendait le terrible malfaiteur qui avait nécessité un si grand déploiement de forces civiles et militaires dut se contenter de voir sortir de l'auberge le pauvre bonhomme Picard entouré d'agents et qui gesticulait comme un possédé. Alors, désappointé, le public se mit à escorter en poussant des huées et en accablant ce singulier prisonnier de quolibets et de lacis. Pendant le trajet, la foule avait si sensiblement grossi que les soldats du guet durent faire des pointes pour refouler les curieux. Grâce à la diversion que produisit la sortie du prétendu prisonnier et des agents, la rue était complètement évacuée par les badauds lorsqu'au bout d'un quart d'heure, le chevalier de Vaudrey et le docteur Hébert sortirent à leur tour de l'auberge pour monter dans le carrosse qui partit à fond de train.